Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International en partenariat avec le journal Le Monde. Notre invité Bruno Marchand est un homme qui va vite, très vite. En novembre 2021, il a été élu à la tête de la ville de Québec, alors que quelques mois auparavant, il était crédité de seulement 1% des intentions de vote et venait de créer son parti Québec Forte et Fière. Bruno Marchand, visite de travail pour quelques jours en Europe, a accepté de faire escale sur ce plateau de TV5 Monde. Il est par ailleurs vice-président de l'Association internationale des maires francophones. Avec lui, nous allons balayer l'actualité, celle de sa ville, de sa province, le Québec, qui résonne sur plusieurs dossiers avec l'actualité internationale. Pour conduire cet entretien, à mes côtés, Jean-Philippe Rémy, chef du service international du journal Le Monde. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour.
Bonjour Bruno Marchand.
Salutations à vous deux.
Merci de prendre un peu de votre temps avant votre retour au Canada. C'est demain, je crois.
C'est demain. Demain, alors après une heureuse mission très riche.
Alors pour débuter cet entretien, je vous propose notre rubrique instantanée. On va écouter quelques paroles et regarder un extrait d'un clip de l'artiste Ali Ndiaye. Sous alias Webster, père sénégalais, mère québécoise. Il est né et a grandi, comme vous, dans le quartier de Limoilou de la ville de Québec. Rappeur, membre fondateur du collectif Limoilou Starts. Il est l'un des pionniers du mouvement hip-hop québécois. Passionné d'histoire, il donne aussi des conférences, notamment sur la présence afro-descendante au Québec et au Canada. On l'écoute.
Question, éducation, il faut nourrir l'esprit qui a faim. L'évolution de l'homo sapiens bien entretenu entre vos mains. La force, la multitude, c'est l'unité dans le besoin. Car seul on avance vite, mais tous ensemble on va plus loin. Question, éducation, on peut le remettre à demain. Comme on dit, pour réussir, faut se donner les moyens. C'est la force, la multitude, de la stagiaire jusqu'au doyen. Car seul on avance vite, mais tous ensemble on va plus loin. Question, éducation, il faut nourrir l'esprit qui a faim. L'évolution de l'homo sapiens bien entretenu entre vos mains. La force, la multitude, c'est l'unité dans le besoin. Car seul on avance vite, mais tous ensemble on va plus loin.
Bruno Marchand, vous connaissez Webster?
Absolument, on se croise régulièrement. Webster est un militant, est une personne engagée, oui. Est une personne complètement dédiée, intègre. Alors il est dans plusieurs, j'ai envie de dire, causes, engagements de la ville. Il nous aide à améliorer notre ville et plus encore.
Ce qu'il dit là, ces mots « tous ensemble, on va plus loin », c'est la force de la multitude, du stagiaire au doyen. Ça résonne presque comme un... Ça aurait pu résonner comme un slogan de votre campagne?
Oui, oui.
Oui?
Oui, autre chose qui aurait pu résonner comme slogan et qui reprend la force de la multitude, c'est ce mot africain qu'on utilise pour expliquer le tout, ce Ubuntu. Nelson Mandela, je pense, l'utilisait. Cette idée, puis je l'ai répété hier à la Chambre de commerce de Paris, « je suis parce que nous sommes ». Alors, on a cherché longtemps à se définir par le fruit de nos efforts individuels. Ils sont importants. Mais en pensant que seuls nos efforts pouvaient nous amener au succès ou à l'endroit où on voulait aller. Et on s'aperçoit, la science le démontre, qu'on est aussi le produit d'une culture, d'une communauté, d'un écosystème qui nous a mis au monde et qui nous aide aussi à sauter encore plus haut.
Quand on parle de l'Ubuntu, on pense bien entendu au cas sud-africain, et vous avez raison, c'est une philosophie dont il est vraiment tentant de s'inspirer. Elle a l'air d'être drôlement battue en brèche, dans un pays comme la France, par exemple. Ouais. Et peut-être est-ce que c'est difficile de faire advenir l'Ubuntu un peu partout. Comment vous voyez les choses évoluer au Canada et tout particulièrement à Québec? Vous avez le sentiment qu'on est sur une dynamique où les identités se transforment, il y a plus de quelque chose qui relèverait, parce que l'Ubuntu se fait petit à petit, en quelque sorte. Ouais. Est-ce que... Ouais. C'est quoi la dynamique pour vous?
Je pense que les identités se transforment, je pense que les villes, je pense que les communautés se transforment. Pourquoi? Parce qu'il y a, entre autres, des contextes géopolitiques. Évidemment, récemment, la pandémie qui a imposé de nouvelles normes sociales, qui a imposé des contractions de nos relations, des contractions de ce qu'on avait comme liberté. Mais... on pourrait ajouter toute la question des nouvelles économies, toute la question des changements climatiques. Et je pense que les gens perdent leurs repères. Alors, on est appelé, quand on perd nos repères, à essayer de les retrouver. Il n'y a personne qui est confortable à se dire « je suis dans une position instable, et je reste ici comme ça, instable, je peux durer des heures. » Non, je sais que je vais avoir, évidemment, des tensions dans la jambe, dans l'épaule, je vais avoir des douleurs. Alors, on cherche cette homéostasie, on cherche à rétablir l'équilibre. Je pense que, malheureusement, Si on cherche dans le passé à rétablir cet équilibre, je pense pas que c'est gagnant. Si on se projette trop loin dans le futur, c'est pas gagnant non plus. Mais il faut accepter de se dire, je pense, une ville, c'est comme ça, des humains, c'est comme ça. Comment on fait par la recherche, par le questionnement, par l'apprentissage des autres, par cette idée que je ne suis pas seul, ni quand ça va mal, ni quand ça va bien, bien, je peux m'appuyer sur une communauté et être plus fort. Mais vous avez raison que ça prend du temps. Vous avez raison que le contexte n'est pas si facile que ça pour le mettre, j'ai envie de dire, à se l'approprier. Mais je pense que c'est possible.
Vous venez de passer quelques jours en France. Comment vous la trouvez, cette communauté française?
Bien, moi, d'abord, j'aime profondément la France. Je suis venu, quand j'étais jeune, faire de l'autostop, pas juste en France, mais principalement en France. Et je suis tombé en amour avec la France. Ça a pris du temps avant de revenir. Je suis revenu pour le travail, la mission, mais Paris sera toujours une ville magnifique à mes yeux. J'aime le vélo, alors vous comprenez que les Alpes, les Pyrénées, j'aime ces villages de France, j'aime tout de la France, honnêtement. Je trouve que dans la France, il y a tout ce qu'on peut rêver dans un pays. Il y a la mer, il y a à la fois la montagne, il y a les villages, il y a l'histoire. Maintenant, le contexte social, je comprends que c'est ça à quoi vous faisiez référence. Je voulais pas détourner ma réponse, mais je pense qu'il faut voir dans ce contexte social une opportunité de faire différemment. Et je pense que ça appelle à ça. Je pense qu'il y a... On a ces débats-là aussi en Amérique du Nord. Là. On a ces débats-là où, par malheureusement incapacité des fois de débattre ou incapacité de au moins s'entendre et s'écouter, ben je pense qu'on sclérose notre capacité d'avancer.
Qu'est-ce que vous avez entendu dans les gens que vous avez rencontrés ces derniers jours? Vous avez entendu...
J'ai entendu de l'amorosité.
L'amorosité.
Oui, j'ai entendu de la tristesse, j'ai entendu de l'amorosité, parce que je pense que les Français sont dans leur profondeur les plus importantes. Je pense qu'ils sont fiers de leur pays, et je pense que, et avec raison, et je pense que là, ben, il y a une forme de remise en question, il y a une absence de... peut-être une incapacité de se projeter, puis je veux garder mon analyse à quelque chose de très sommaire, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir étudié la société française pour en faire une analyse très juste, mais les gens que j'ai rencontrés, je pense, exprimaient ce désir d'une France plus mobilisée, d'une France qui regarde vers l'avant, d'une France qui a de l'ambition, et je pense que présentement, ils sont plus remis en question par rapport à ça.
Vous qui arrivez, qui projetez un regard à la fois de proximité et puis avec, je crois, sympathie, sur le trouble français actuel, ouais. Où est-ce que vous discernez des points d'évolution?
Je trouve qu'il y a... Je pense que c'est malheureusement peut-être pas assez exprimé ou peut-être pas assez entendu, mais j'ai vu au Havre des évolutions d'une ville extraordinaire duquel on peut s'inspirer. J'ai vu ça à Paris.
Vous étiez à Bordeaux aussi?
Oui, à Bordeaux. Pierre Urmic, qui est à mes yeux un maire extraordinaire qui fait évoluer sa ville. On a des sources d'inspiration, que ce soit dans l'aménagement de la ville, que ce soit dans la mobilité, que ce soit dans la relation avec les communautés dans certaines villes où ça va pas toujours mal, où il y a des choses qui s'inscrivent dans la cohabitation, dans la capacité de construire quelque chose de commun. Moi, quand je viens ici, je trouve pas que ça va mal. Est-ce qu'il y a des défis? C'est sûr, mais je vois, je suis capable, et j'espère que vous êtes encore capable, mais de voir les belles choses. Il se fait de l'innovation. Vous avez des entreprises qui sont des fleurons avec qui on travaille. Alstom, que j'ai rencontré, Ubisoft, des dirigeants dédiés, des gens qui souhaitent faire prospérer, qui travaillent avec nous au Québec. Alors, peut-être que mon regard est édulcoré, peut-être qu'il est... peut-être trop sympathique, mais moi, je vois encore beaucoup, beaucoup de choses desquelles on peut apprendre en France.
Et dans le diagnostic sur ce qui ne va pas, vous dites que c'est juste l'incapacité de débattre?
Non, je n'oserais pas dire ça. Je vais me ramener à chez nous. Probablement par une tendance liée à la capacité de communiquer dans des médias sociaux où peut-être on a encore à apprendre le comment. On a chez nous... Cette espèce d'état de croisade continuelle et, j'ai envie de dire, permanente. Alors, on débat moins qu'on débattait, et les médias sociaux font en sorte que soit qu'on abandonne ou soit qu'on va à la guerre. Et à travers cette idée de croisade, où on a tort, où on gagne, où on perd, je pense qu'on y perd comme communauté. Je pense qu'il faut être capable encore d'être contre, il faut être capable d'être pour, il faut être capable de le dire, mais il faut être capable de certainement pas tomber dans l'irrespect, les incivilités, dans ce jugement, dans ces attaques ad personam qui finissent par tuer le débat. Et tuer le débat, c'est se priver de la contribution de l'un et de l'autre pour faire quelque chose de meilleur. Et ça, je pense que dans nos démocraties, on en a franchement besoin. Et comme politicien, on a un rôle. Alors, comme politicien, on reçoit beaucoup trop d'incivilités, et particulièrement les femmes en politique. Particulièrement les femmes en politique, et je déplore ça. Les hommes aussi, mais les femmes particulièrement sur l'ensemble du spectre. De leur apparence, à leurs mots, à l'utilisation d'un vêtement, de leurs cheveux, c'est ridicule. On quitte le plus important, c'est-à-dire le fond, pour s'attaquer à la forme, et s'attaquer, le mot est juste. Je pense qu'il faut faire différemment. Mais je pense qu'il faut, nous, comme politiciens, être capables de dire, permettons le débat. Vous êtes contre, dites-le. Permettons ces plateformes où les gens s'expriment. Où les gens s'expriment dans le respect, mais où les gens s'expriment et où ils ont le droit de dire, je n'aime pas cette idée que vous avez. Mais tant mieux. Tant mieux. Dites-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi ça ne résonne pas chez vous. Dites-moi qu'est-ce qu'on peut faire de mieux.
Est-ce qu'on n'est pas non plus une période de transformation où le débat aussi doit être un peu âpre? Ben quand oui. On fait de la politique, c'est oui. Dur aussi. Oui. Parce que là, c'est vrai qu'on est tous d'accord pour dire vive l'Ubuntu et vive la Concorde. Oui. Mais si on veut transformer les sociétés, ben ça demande des chocs aussi. Oui.
Et vous avez tout à fait raison. La destination doit être ambitieuse. Et une destination ambitieuse, évidemment, ça ne plaît pas à tous. Parce que c'est peut-être pas la bonne destination, elle est trop ambitieuse ou trop rapide. Maintenant, ma façon de le voir, c'est de dire on doit viser la Lune, absolument la Lune, parce que si on ne la vise pas, de toute façon, on ne s'y rendra pas. Alors, on doit la viser la Lune. Maintenant, dans le chemin qu'on doit faire, il y a de la capacité à écouter, de la capacité à, je pense, entendre, mais il reste quand même que le politicien ou la politicienne doit décider, après avoir entendu les voix, doit prendre une direction, et on ne peut pas toujours la remettre en question parce qu'on n'avance pas.
Alors, comment on regarde depuis Québec la position du gouvernement français, la position du président français, la façon dont ici, il y a cette tension, c'est vrai, il faut le reconnaître. Ouais. Ça vous paraît un peu étrange ou...
Non, parce que on le regarde avec distance, donc avec certaines incompréhensions, parce qu'il y a des enjeux sur lesquels, par exemple, sur les retraites qui sont totalement différentes de chez nous, sur l'âge, mais aussi sur des modalités, sur les façons de l'apprendre, sur les mesures sociales qui sont données aux personnes retraitées. Mais je pense pas qu'on doit faire des leçons à la France. On a ces mêmes débats chez nous. On a ces mêmes débats où, peut-être fait un peu différemment, mais on a ces mêmes débats où il y a des gens qui sont rapides à mettre leurs plumes dans le vitriol pour donner généreusement de ce vitriol qu'ils souhaitent à tous, sauf eux-mêmes, pour lesquels ils ne veulent pas être eux-mêmes traités comme ça. Alors, je me permets, puis je le fais pour chez nous, je me permets de dire que si on veut faire avancer une communauté, il faut être capable encore de s'entendre, de débattre et de discuter. Sinon, je pense que le résultat n'est pas celui qu'on souhaite.
La question de Jean-Philippe concernait plus l'attitude de la façon dont ce pays est aujourd'hui dirigé et gouverné.
Je suis très mal placé pour donner des leçons. Très mal placé pour donner des leçons. Est-ce que si vous aviez un Québécois avec moi, il pourrait être très critique de ce que je suis, de ce que je fais, de ce que je fais pas? Alors, je pense que la politique, c'est l'art à la fois d'être empathique, à la fois de relever les défis, d'être ambitieux, de rassembler. Vous savez, la question des changements climatiques, c'est quelque chose pour moi qui est un bon exemple de ça.
Oui, on va y venir. Donc, je retiens votre mot empathie. Mm. Peut-être que c'est ça que vous soulignez sur la façon...
Mais c'est dur, hein? C'est dur quand on est tous les jours critiqué, quand on est tous les jours fusillé, quand on est tous les jours remis en question, de garder cette empathie-là.
Il faut garder de l'empathie.
Oui, il le faut.
Je voudrais, si vous voulez bien, Bruno Marchand, pour poursuivre cette émission, que nous regardions ensemble votre portrait. Il a été réalisé par Antoine Delpierre et Séverine André. C'est le focus de ce numéro d'International.
Comment faites-vous, Bruno Marchand? À voir votre parcours, on se dit que forcément vous avez un secret pour tenir la distance, garder le rythme et accélérer au bon moment. Comme il y a plus d'un an, lorsque vous emportez la mairie de Québec au sprint final, devant la favorite à quelques 800 voix près, au terme d'une renversante soirée électorale.
Merci. Est-ce que votre cœur tient encore le coup?
Depuis, le rythme n'a pas faibli. C'est même plutôt l'inverse.
Cette fonction-là, elle est fascinante. Il n'y a pas une journée pareille. Ils rentrent des crises à pelleter. On reçoit 100-150 demandes pour aller participer à des événements par semaine. Tu pourrais travailler 38 heures par jour, puis t'en as pas encore assez.
Au discours, vous alliez l'image. L'espadrille, comme on le dit par chez vous, est devenue la marque de votre politique, que vous voulez dynamique, efficace. Un outil de communication coloré que vous panachez, vous, le maire centriste, qualifié par les observateurs de drôle d'animal politique. Du contesté tramway aux questions d'emploi, en passant par l'environnement, vous vous affichez sur tous les dossiers et vous pratiquez ce qu'on appelle la diplomatie des villes.
Quand les gens ont à choisir une ville où ils veulent habiter dans le monde, hein, mais vous choisissez une ville comment? Vous choisissez une ville parce qu'elle est attractive, parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle répond à des enjeux modernes, parce qu'elle a quelque chose à vous offrir.
Et vous, Bruno Marchand, en 51 ans, que vous a offert Québec? Enfant unique, issu d'une famille modeste, vous êtes le premier maire depuis 1938, originaire de la Basse-Ville, un quartier qui a forgé votre parcours. Après des études de philosophie à Laval, vous obtenez un diplôme de travailleur social avant de vous impliquer dans l'Association québécoise de prévention du suicide et surtout comme président-directeur général de Centraide Québec, cette fondation publique qui soutient un vaste réseau d'organismes communautaires. Votre mission aujourd'hui n'est pas si différente, à ceci près que la politique exige d'avoir plusieurs coups d'avance sur ses adversaires. Voilà qui explique peut-être en partie votre secret, Bruno Marchand, vous, le grand amateur du jeu d'échecs.
Ça vous fait sourire?
Oui, ça me... Oui, ça me fait sourire. C'est un bon résumé.
C'est un bon résumé.
Ouais.
Pourquoi, donc là, on l'a évoqué avec Jean-Philippe, vous avez voyagé, vous avez même fait deux voyages en l'espace de mois. Pourquoi l'international est si important dans la gestion d'une ville comme Québec? Qu'est-ce que cette diplomatie des villes dont on vient...
Pour apprendre. D'abord, pour
apprendre.
Oui. Pourquoi? Parce que je pense que, et c'est pas moi qui le dis, c'est le maire de Bordeaux, Pierre Urmic, nous n'avons plus le luxe du temps. Alors, on reviendra à la question climatique tantôt. Parce que nous n'avons plus le luxe du temps, nous n'avons pas le luxe non plus de nous perdre en chemin. Nous n'avons pas le luxe de prendre du temps, de cueillir des fleurs, de s'arrêter, d'observer la vue. C'est malheureux parce que la contemplation est quelque chose de riche à l'humain. Mais je pense que comme ville, on doit apprendre. Alors, quand Bordeaux fait quelque chose de bien, on ne doit pas le réinventer. On doit l'adapter, parce que Bordeaux n'est pas Québec, Québec n'est pas Bordeaux, et l'améliorer, l'adapter à chez nous et le faire. Quand Paris fait quelque chose de bien, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses de bien qui sont faites à Paris, bien, il faut être capable de l'importer. Et pour ça, ça suppose d'avoir ce regard humble sur soi, ou dire, c'est pas parce que j'ai besoin d'apprendre que je ne vaux rien, que je ne suis rien. La ville de Québec est extraordinaire, mais si elle apprend encore plus vite, si elle apprend encore mieux de ses partenaires, on va être capable de résoudre, de relever des défis qu'on ne serait pas capable aussi rapidement.
Peut-être, on aimerait vous entendre sur la définition du mot démocratie, parce que vous êtes quelqu'un qui défendait ce mot en disant qu'il faut une démocratie forte. Hein.
Ouais.
On vient de l'évoquer un tout petit peu, hein, la façon dont ça se passe aujourd'hui en Europe, des partis populistes ou d'extrême droite qui se retrouvent aux affaires, comme en Italie, ou qui soutiennent des gouvernements, comme en Suède. Pourquoi ça ne fonctionne plus? Alors, on a entendu, hein, il n'y a plus de débat, mais comment on en arrive aujourd'hui à avoir, dans ces pays qui ont eu des grandes traditions démocratiques, à se retrouver avec des pouvoirs aussi extrêmes?
Je pense qu'il y a une perte de confiance dans les institutions. Et je pense que cette perte de confiance est significative dans la suite des choses. Et je pense que certains politiciens et politiciennes, contribuent à ça. Je pense qu'on peut faire des débats, on peut être en désaccord, mais remettre en question, et souvent de façon, j'ai envie de dire, très démagogique, les institutions. On le vit aux États-Unis, on le voit dans certains pays. Je pense que c'est fragiliser la confiance des citoyens envers des processus qui sont importants pour la suite des choses, notamment la démocratie, notamment les médias. Est-ce que les médias sont parfaits? Ils ne le seront jamais. Ils sont faits par des humains et les politiciens ne seront jamais plus parfaits non plus. Ils ne l'ont jamais été, d'ailleurs. Cependant, quand un politicien se permet de dire que dans les médias, tout est mauvais, je pense qu'il fragilise la confiance des citoyens, il fragilise la démocratie parce que le média est un élément important pour amener cette information aux citoyens, pour amener cette connaissance et cette capacité de prendre jugement sur quelque chose parce qu'on est informé. Est-ce que tous les médias ont pas certains, parfois des penchants? Évidemment. Maintenant, je pense qu'un politicien ne devrait jamais démoniser la question des médias dans son ensemble, parce que je pense qu'on se tire dans le pied. Quand on démonise nos institutions, quand on démonise ce qui a été construit par nos pères et nos mères, et à force de beaucoup de travail et de beaucoup d'ardeur, je pense qu'on se nuit, parce qu'on dit à des citoyens que ça n'a plus de valeur, qu'il est peut-être fraudé, qu'il y a quelque chose, qu'il y a un complot derrière ça, qu'il y a quelqu'un qui en profite. Mm-hmm. Je pense que c'est problématique.
Vous pensez qu'on peut réinventer quelque chose par la base? Alors, c'est ça votre abord ou...
Mais je pense qu'il faut partir des institutions que nous avons. Je pense pas qu'on peut...
Vos institutions ne sont pas en crise, peut-être comme les institutions dans plusieurs pays d'Europe, les institutions aux États-Unis.
Oui. Mais prenons les États-Unis. Est-ce que les institutions sont en crise ou on a vaillamment fait un travail de sape pour détruire la confiance qu'avaient les gens envers les institutions? Et ça, c'est pas la même chose pour moi. Ça ne veut pas dire que les institutions ne doivent pas se renouveler. Elles doivent être en constante recherche de ce qu'elles peuvent améliorer. Mais il reste quand même, quand on remet, par exemple, le résultat d'un vote en question...
Vous parlez de Donald Trump.
Ben, est-ce que le directeur des élections, la directrice des élections peut mieux faire? Est-ce que les processus peuvent être améliorés? Certainement. Mais quand on n'accepte pas le résultat démocratique, je pense qu'on place des mines sur notre chemin et pour longtemps.
Le travail de sape de Donald Trump est arrivé parce qu'il avait été élu en premier lieu. Donc la défiance vis-à-vis des institutions, elle avait commencé...
Bien avant.
C'est quand même paradoxal. Qu'on accepte le résultat lorsqu'il nous est favorable, et qu'on le refuse lorsqu'il nous est défavorable.
D'accord.
Et je voudrais, à ce sujet d'ailleurs, puisque vous parlez des États-Unis, qu'on s'arrête quelques instants sur cette déclaration du président américain Joe Biden, qui a officialisé cette semaine sa candidature à sa réélection à la Maison-Blanche en 2024. On l'écoute.
Lorsque je me suis présenté à l'élection présidentielle il y a 4 ans, j'ai dit que nous étions engagés dans une bataille pour l'âme de l'Amérique. Et c'est toujours le cas. La question à laquelle nous sommes confrontés est de savoir si, dans les années à venir, nous aurons plus ou moins de liberté, plus ou moins de droits. Je sais ce que je veux comme réponse, et je pense que vous le savez aussi. Ce n'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers. C'est pourquoi je suis candidat à ma réélection.
Joe Biden, candidat à sa réélection et qui fait retentir ses mots pour qualifier la démocratie d'âme de l'Amérique, de droits humains, de liberté. Cette candidature à cette réélection, est-ce que c'est un bon signe de régénération d'une démocratie qui se régénère?
Les dernières élections nous ont permis de constater un combat entre deux hommes, deux partis qui présentaient quand même des figures assez âgées. La dernière élection qui a permis à Joe Biden de l'emporter. Est-ce que c'est pas plus signe des temps ou d'un concours de circonstances? D'autant plus que les Américains ont deux partis. Alors, les options pour amener d'un vent nouveau souvent passent par des processus très bien établis qui durent dans le temps et qui présentent des candidats qui lentement montent de fonction en fonction pour arriver à une capacité de gagner les primaires. Je pense pas qu'on peut dire que c'est pas signe de ça, mais... Je pense qu'on a besoin, et c'est ça, on revient au fait d'apprendre, je pense qu'on a besoin de cette capacité de se remettre en question. Et ça, je pense que plus que jamais, on en a besoin. Quand on regarde le contexte géopolitique mondial, quand on regarde tout ce qui, présentement, nous remet en question, si on refuse la remise en question, si on refuse d'apprendre avec humilité, bien nécessairement, je pense qu'on ralentit notre capacité à se sortir des crises.
Vous avez au Québec, particulièrement depuis 2016, des groupuscules d'extrême droite qui sont de plus en plus visibles qui se font de plus en plus entendre. Ça a été multiplié par 3, je crois, en quelques années. Comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez-vous cette menace de l'extrême droite dans un pays où elle n'a vraiment pas été très présente dans l'histoire du pays?
Non, c'est vrai. C'est vrai parce qu'on est un pays relativement modéré sur le plan politique. Je pense que les extrêmes font des coups d'éclat qui sont très visibles, qui sont très apparents, qui attirent l'œil. Je pense pas qu'une majorité de gens sont attirés par les extrêmes présentement au Québec ou au Canada. Ça veut pas dire qu'il y en a pas qui sont attirés.
Mais est-ce que vous voyez ça comme une chambre d'écho de ce qui se passait peut-être de l'autre côté de la frontière aux États-Unis?
Oui, est-ce que ça rouvre des portes pour que certaines idées s'expriment, certaines idées plus extrémistes, c'est sûr. Est-ce que les médias sociaux ne sont pas un lieu aussi où c'est facile de se retrouver et donc en se sentant groupé, en se sentant en meute, on est capable plus de se sentir fort et de penser que ça devrait avoir une voix quelque part? Maintenant, je pense que les gens, entre la droite et la gauche au Québec, je pense que les gens oscillent dans un niveau de modération qui permet encore d'aspirer à rassembler des gens.
Mais ça ne vous inquiète pas trop.
Peut-être que je me trompe, mais je pense que la démocratie est en santé, bien qu'il faut
rester très vigoureuse. Elle est plus vigoureuse.
Vous avez aussi un modèle assez unique, d'un certain point de vue, qui est un modèle de création d'un pays autour d'une identité collective faite, fondée sur l'immigration.
Oui.
C'est un modèle qui est en crise ou c'est un modèle qui va bien?
Oh non, c'est un modèle qui est remis en question au sens où... Comment on fait pour bien intégrer? Et ça, c'est la question qui est sur toutes les lèvres, au sens où, d'abord sur la langue, par le caractère du Québec qui est entouré dans une marée anglophone, les États-Unis, le Canada anglais, se protéger contre cette idée qu'un jour on perde le fait français, c'est une volonté de nombreux Québécois.
Vous avez l'image du village gaulois, d'ailleurs.
Oui, oui, mais c'est vrai. C'est vrai, parce que quand on regarde les albums d'Uderzo et de Goscinny, c'est ça l'image. On est un petit groupe, quelques millions, sur une terre où on parle anglais. Alors, on a à protéger une culture, à protéger une langue, et je pense qu'on le fait bien. Je pense qu'on le fait bien. Est-ce qu'on peut le faire mieux? Certainement. Accueillir des gens, c'est nécessaire pour des raisons de géopolitique mondiale, parce qu'il y a des gens qui souffrent, parce qu'il y a des gens qui ont des besoins, mais aussi parce qu'on a, nous aussi, des besoins.
Vous avez des besoins, vous avez une pénurie de main-d'œuvre qui nécessite, effectivement, c'est ouais. D'ailleurs un des actes de votre politique d'immigration, c'est de faire venir cette main-d'œuvre.
Mais pas n'importe comment, vous savez. Ça, oui. C'est important. On a longtemps vu, moi, j'aime pas cette idée qu'on accueille des immigrants pour venir combler des emplois. Parce qu'à quelque part, il y a quelque chose de très utilitariste qui, selon moi, risque d'être très compliqué quand les emplois ne seront plus là. Si notre taux de chômage augmente, on est à 1,7 % aux dernières données. C'est phénoménal, c'est le record historique.
Pour la ville de Québec.
Pour la ville de Québec.
C'est du jamais... Enfin, depuis 2006...
C'est du jamais vu.
Jamais vu.
Non. Mais je suis pour que ces gens-là puissent avoir accès à un emploi, mais je suis surtout pour que, comme communauté d'accueil, on s'assure de l'intégration dans la communauté.
Donc, quand un mélange entre l'immigration choisie, parce que... Le Québec, le Canada en général, le Québec en particulier, là, a besoin de certains types de compétences, oui. A besoin de, etc. Oui. Mais mélanger donc avec, avec la notion d'intégration, ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire ouvrir les portes de manière plus large à tous ceux qui en manifestent le besoin parce que leurs situations sont difficiles dans les pays dans lesquels ils vivent, parce qu'il y a des zones de conflit dont ils sont originaires. Mais, est-ce que c'est possible de le formuler clairement?
En fait, ouais, ben, je pense que le vrai chiffre, c'est pas celui du besoin, c'est celui de notre capacité à accueillir. Mm-hmm. Au Québec, on a... des fois, j'utilise cette expression. On pense qu'en accueillant parfois, si on donne un manteau d'hiver et une carte d'assurance maladie, on vient de bien accueillir parce que des emplois, il y en a. C'est pas suffisant. Bien accueillir, c'est expliquer les codes sociaux. Bien accueillir, c'est expliquer comment on franchit les différentes étapes bureaucratiques de l'impôt, de l'école, de l'inscription à l'école, du cheminement à travers différents référents, différentes formes d'aide sociale. Il faut être capable de soutenir et c'est, selon moi, la seule façon de faire en sorte qu'au bout de 36 mois, 48 mois, 60 mois, on soit capable d'avoir des gens qui soient épanouis dans une culture qui est devenue la leur, auquel ils contribuent, dans laquelle ils s'épanouissent. C'est la seule façon. On ne peut pas, je pense, juste se fier sur l'air d'aller pour dire, ben oui, ces gens-là vont trouver un travail et vont nécessairement être heureux ici. Je pense que ça, c'est une erreur qu'on a faite et qu'on ne devrait pas répéter.
Alors justement, à propos, je voudrais qu'on écoute un extrait du discours inaugural devant l'Assemblée nationale de Québec le 30 novembre dernier de votre premier ministre, François Legault, qui lui, parlait d'une immigration nécessaire à 100% francophone. Je voudrais qu'on l'écoute, François Legault.
C'est pas acceptable que les gouvernements qui se sont succédés dans les 10-20 dernières années est toléré que seulement 50 à 60 des immigrants économiques, qui sont pourtant sélectionnés complètement par le gouvernement du Québec, que seulement 50 à 60 des immigrants économiques parlent français. On se donne comme objectif d'atteindre près de 100 % de personnes qui parlent français. C'est une question de survie pour notre langue au Québec.
Une question de survie, c'est des mots forts, mais c'est...
Il a été... des gens lui ont reproché ces mots forts-là.
Les gens lui ont reproché, et vous lui reprochez aussi?
Moi, je pense que si on est capable d'avoir 100 % d'immigrants francophones, c'est une bonne nouvelle.
Ah, c'est une bonne nouvelle?
Oui.
Parce que c'est l'identité de votre...
Mais pas pour exclure des gens, parce qu'il y a suffisamment de besoins dans la francophonie pour faire en sorte qu'on puisse aider des gens qui viennent chez nous, mais qui parlent français. C'est une facilité d'intégration si on parle déjà français en arrivant. Des gens peuvent l'apprendre. Je pense que c'est un rêve de dire 100 %. Ce ne sera jamais 100 %. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs parce qu'il y a des expertises en Asie, parce qu'il y a des gens qui ont des besoins ailleurs dans le monde ou des réalités géopolitiques qui amènent des gens chez nous. Mais je pense que le Québec, par son caractère francophone, s'il veut être capable de perdurer dans le temps, il a avantage à augmenter son immigration francophone. Et ceux qui ne sont pas francophones, bien, les aider à apprendre le français. Et ça se fait déjà. On le fait déjà. À Québec, c'est comme ça. Vous ne pourrez pas vous épanouir dans la ville de Québec si vous ne parlez pas français, parce que c'est en français que ça se passe. Et honnêtement, c'est une force. Je reviens de la Belgique où on m'a dit, dans les questionnaires qui sont posés à des gens qui sont en recherche d'emploi, il y avait 10 000 personnes, 10 000 Belges, qui avaient un intérêt à venir travailler au Québec, à venir s'installer au Québec. Alors, si la Belgique a un taux de chômage présentement, on me disait autour de 15 % 30 % chez les jeunes, et qu'on peut aider ces jeunes-là à venir se garnir d'une expérience, se garnir d'expériences professionnelles qui vont pendant 3, 4, 5 ans à la fois contribuer à la communauté québécoise, ils parlent déjà français, garnir leur curriculum vitae, et ensuite peut-être décider de revenir en Belgique ou de rester au Québec, pourquoi pas? Mais si on parle déjà français, c'est un plus. Puis si les gens ne parlent pas français, bien, trouvons les moyens pour les aider à l'apprendre.
Donc, pour vous, il faut fonder une sorte d'identité autour de la question linguistique.
La question linguistique, enfin, fondée, fait partie de notre identité.
Elle existe déjà, mais il faut la préserver à tout prix.
À tout prix, oui.
Alors, est-ce qu'on... Là on n'est pas,
pas, pas
dans le renouvellement que vous suggériez tout à l'heure. On est dans la préservation de quelque chose. Mais avec
renouvellement,
un petit peu
ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on vient, avec une autre langue. C'est pas ça, le renouvellement.
On pourrait imaginer que le français existe en dépit du reste. Enfin,
mais ce qu'on voit, c'est que si on ne fait rien, la proportion de gens qui parlent français va inexorablement diminuer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bien, c'est juste la suite naturelle des choses. Moi, je pense qu'au Québec... un des éléments fondateurs de notre identité, c'est la langue.
Mais alors, je voudrais qu'on regarde cette petite vidéo qui a été réalisée par le gouvernement du Québec et qui, justement, ouais. Elle est assez drôle. Hein, ouais. Elle est faite avec beaucoup d'humour sur un faucon.
Le faucon pèlerin. Cet oiseau de proie vraiment sick est reconnu pour être assez chill. Parce qu'il est super quick en vol, il peut passer la majorité de son temps à watcher son environnement. Mais malgré que ses skills de chasse soient insane, l'avenir du faucon pèlerin demeure sketch.
Mais est-ce qu'on peut forcer l'apprentissage d'une langue?
Non. Parce que quelqu'un peut décider, on n'emprisonnera pas quelqu'un qui parle pas français. On ne sévira pas par différentes mesures pour le punir. Mais je pense qu'on peut l'aider à l'apprendre. Je pense qu'on peut expliquer que ça fait partie de l'identité. Je pense qu'on peut faire en sorte de protéger la langue par le fait qu'on offre les services en français. On n'est pas toujours en train de chercher quelque chose d'autre dans une autre langue plutôt que de le faire en français. Je pense qu'on peut l'enseigner à nos jeunes. Je pense qu'on peut être fier d'en parler. Je pense qu'on peut être fier à la fois de bien parler le français, en faisant des erreurs, mais en apprenant, en se corrigeant. Moi, je pense que c'est important.
On a parlé de l'Afrique tout à l'heure. C'est un sacré réservoir francophone, l'Afrique. Demain, d'ailleurs, hein, ce sera le plus gros bassin de la francophonie. Oui. Vous regardez précisément vers ces pays pour justement aller chercher... une main-d'œuvre qui parle français?
À la lumière de ce que je vous ai dit tantôt, je préfère qu'on recherche des gens à une main-d'œuvre. Évidemment, ces gens-là apporteront une main-d'œuvre, mais d'abord, ce sont des gens. Ce ne sont pas des travailleurs, ce sont des gens. Alors, est-ce que l'Afrique, avec, vous l'avez bien dit, là, avec tout son potentiel de croissance, n'est pas un bassin intéressant? Moi, je pense que c'est un premier bassin intéressant pour faire en sorte que la francophonie se renforcisse. Avant même que Québec ou d'autres en bénéficient, je pense qu'il faut nourrir la francophonie encore plus qu'on le fait présentement. Parce que, notamment dans la francophonie économique, je pense que les Anglais ont mieux réussi ça que nous. Cette capacité à tisser des liens avec les communautés anglophones et à créer des liens économiques très forts.
Avec le Commonwealth.
Oui. Et je pense que, pour plein de raisons qui s'expliquent, historiques et autres, et de besoins, mais je pense qu'on doit renforcer nos liens économiques avec la francophonie, notamment l'Afrique. Et après, s'il y a des gens d'Afrique qui peuvent contribuer, ont l'intérêt de venir au Québec, ont la capacité, le souhait, et trouvent, je pense, un intérêt, bien, pourquoi pas? Mais il y a quelque chose de plus en plus sur lequel je pense qu'il faut faire attention quand on fait des missions de recrutement. On ne va pas non plus essayer de vider un pays de ses meilleurs talents et de ses meilleurs humains. Au sens de réponse emploi, là, je parle.
Ceux qui sont les mieux formés.
Ceux qui sont les mieux formés, en se disant, bien, c'est pas grave, si pour eux, ça crée des trous, si pour eux, ça crée des manques, nous, on est comblés. Moi, je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère de relations internationales où on quitte, et vous me pardonnerez cette expression anglaise, mais on quitte le « what's in it for me ». On quitte le « qu'est-ce qui est bon pour moi », puis après ça, bien, toi, c'est ton problème. Je pense que pour la suite des choses, parce qu'on n'a plus le luxe du temps, je pense qu'on a l'obligation de se dire comment on trouve des situations gagnant-gagnant. comme je l'expliquais tantôt, comment quelqu'un peut partir du Cameroun, venir au Québec, peut-être s'établir à long terme ou peut-être juste venir chercher une expérience pendant 5 ans, garnir son bagage d'expérience, revenir au Cameroun, s'en servir pour continuer d'être un tremplin pour sa carrière, pour son pays. Je pense que ces situations-là vont se multiplier et non plus être dans un mode de, bien, on se préoccupe du Québec, puis le Cameroun, c'est pas important. Non, le Cameroun, c'est important aussi. Cette planète est malheureusement de plus en plus petite et on ne peut pas penser agir seul en se foutant des autres et en se disant c'est pas grave si les autres réussissent pas.
Vous avez évoqué tout à l'heure le changement climatique. Il nous reste une quinzaine de minutes, donc j'aimerais vraiment qu'on l'aborde. Après un an de mandat à la tête de la mairie, vous avez fixé ce cap de manière très forte. Hein. Vous dites que Québec doit devenir une ville à l'avant-garde du combat. Vous voulez développer des zones piétonnières. Vous voulez donner plus de place aux pistes cyclables. Vous voulez favoriser une mobilité moins polluante, puisque je crois que 64% des émissions de gaz à effet de serre chez vous, ce sont les transports. Vous rentrez, vous êtes encore à Paris. Vous avez beaucoup, j'imagine, échangé avec la maire de Paris. Oui. C'est un modèle pour vous, ce qui a été fait à Paris?
Je pense qu'il faut saluer le courage. Je pense qu'il faut saluer le courage de cette... nous, on dit chez nous, mairesse, je sais que vous dites la maire, mais je pense qu'il faut saluer le courage de faire des choix qui vont permettre d'obtenir des bénéfices et qui vont permettre d'inspirer la planète. Est-ce que tout est parfait? Probablement pas, mais je salue le courage de cette femme, je salue le courage de ce qu'elle affronte pour faire en sorte d'atteindre des objectifs. Nous...
Les éléments les plus marquants pour vous dans ces réalisations sont...
Ben, les rues-écoles, c'est un exemple. Les pistes cyclables, la volonté de dépolluer Paris, la capacité... Faire des jeux qui sont éco-responsables, dont on va réutiliser la plupart des bâtiments après ou dont on sait déjà ce qu'on va faire ensuite. D'amener les compétitions dans la scène, il y a quelque chose qui force l'image, mais quand même qui est intéressant de repermettre par... une ville, par son centre, de recréer des relations. Parce que c'est ça aussi une ville. Et c'est inspirant, comme d'autres sont inspirants et inspirantes. Pierre Urmic, ce que fait Pierre Urmic, ce que fait Philippe Claus, ce que fait Maxime Bréau à Namur. Il y a une communauté de pensée chez beaucoup de maires et mairesses qui n'est pas toujours acceptée dans les populations, mais qui quand même inspire le respect et inspire la capacité de...
Mais vous dites que je ne veux pas faire la guerre aux voitures.
Non.
Mais c'est ce qu'elle a un peu fait, quand même.
Oui, mais là, après ça, c'est pas moi qui vais lui dicter sa ligne de conduite, mais je vais vous dire pourquoi, moi, je ne fais pas la guerre aux voitures.
Parce que vous êtes en Amérique du Nord et que la voiture est en Amérique, non?
Non. Jan Gehl, l'urbaniste architecte danois, qui a beaucoup contribué à plusieurs villes dans le monde, notamment la transformation de Times Square. Quand on lui a posé la question, j'ai eu la chance de le voir à Copenhague. On lui a dit, vous savez, nous, on est une ville de voitures. Et sa réponse a été la suivante. J'ai travaillé avec 300 villes dans le monde. Et à chaque fois que j'ai commencé à travailler avec une nouvelle ville, on m'a toujours dit, vous savez, nous, M. Gehl, on est une ville de voitures. Alors, on veut bien se penser unique, qu'on est différent de tout le... Non. La voiture a pris ses airs, a pris ses aises à une époque où c'était important. Il y avait de l'autonomie, il y avait de l'indépendance, il y avait une capacité. Et maintenant, on s'aperçoit qu'elle a aussi des limites. Alors, pourquoi je ne veux pas dire aux gens, je vais choisir à votre place comment vous allez vous mobiliser, comment vous allez vous déplacer? Parce que pour moi, la motivation intrinsèque est plus forte que la motivation extrinsèque.
Ben oui, mais enfin, si vous n'avez pas les transports en commun, si vous n'avez pas...
Et c'est ça, le travail d'une ville, c'est d'offrir des choix.
Voilà.
C'est pas de dire, je sais comment vous devriez vous déplacer. C'est pas de dire, vous devriez prendre tel moyen plutôt qu'un autre. Moi, mon objectif, c'est de dire, notre ville doit offrir des choix, une multitude de choix, faciles, accessibles, peu coûteux, qui permettent de gagner en efficacité sur le temps, parce qu'on est dans des enjeux de temps, il y a la famille, il y a la vie professionnelle, il y a toute la vie autour, mais qui permettent de dire aux gens, vous allez avoir des choix intéressants et vous allez être capable de faire les bons choix, et c'est pas moi qui vais les faire à votre place.
Oui, mais pour faire ces choix, par exemple, le tramway à Québec, il y a quand même des réticences, parce que vous coupez des arbres, parce que pour construire des locaux techniques, vous empiétez sur une forêt. Ouais. C'est pas toujours simple non plus de...
Mais c'est l'art du compromis. C'est impossible de dire je veux une médaille sans son revers. Alors, toute médaille a des avantages, mais a aussi son revers. Et on est obligé de faire la balance de ce qui est intéressant. Alors oui, on construit un tramway qui va nous permettre de sauver des dizaines de milliers de tonnes de GES. Mais oui, pour le faire, il va falloir couper des arbres. Mais on s'est engagé à un ratio de replantation.
De replantation, oui.
Qui est un ratio scientifique qui dit que pour capter la même quantité de carbone, pour avoir la même quantité de canopée, il faut rapidement en planter plus que moins, parce qu'il y en a qui vont mourir, parce qu'il y en a dans le temps qui vont malheureusement se perdre. Un ratio de 20 pour 1 de plantation, c'est intéressant. Alors, on s'est engagé à planter 30 000 arbres pour les 1 500 qu'on va devoir couper.
Alors ça, c'est des symboles, c'est des signaux, enfin, pas que des symboles, puisque planter des arbres, ça produit moins de gaz à effet de serre, ça libère de l'oxygène, etc. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le niveau d'acceptabilité, hein. Vous y êtes sensible à on a eu l'occasion de se rendre au Québec il y a quelques mois. Nous avons tourné un reportage sur une rivière, c'est la rivière Magpie, où des gens se sont battus, des populations autochtones, les Inuits, pour donner une responsabilité juridique, au même titre qu'un être humain, à cette rivière, pour la protéger de ce que fait Hydro-Québec, qui se bat pour construisant des barrages sur ces rivières pour une production énergétique plus verte et plus autonome aussi, et qui enrichit aussi la province, parce qu'elle revend, elle revend de l'énergie. Je voudrais qu'on regarde un extrait de ce reportage qui s'appelle Magpie, le cours de la justice.
Dans la région de la Magpie, après 10 ans de travaux, cet immense barrage vient de sortir de terre. Le complexe de la Romaine, capable à terme de chauffer la ville de Montréal chaque hiver.
Moi, j'appelle ça une cicatrice. Les cicatrices, ce sont les ouvrages. Et ça, on les voit de très loin. Ça me fait mal. Les rivières, ce sont des veines. Les veines de la terre-mère, c'est que... Ils nettoient, ils s'auto-nettoient et apportent un équilibre. On est liés, on ne fait qu'un. Ce serait avec le territoire ou avec le monde animal.
Là, il s'agit de croyances de ces populations, de ces Inuits qui voient dans ces barrages des cicatrices, comme le dit ce chef Inou. On a parlé d'acceptabilité. Vous parlez de revers de la médaille. Il faut un revers de la médaille. Mais on a beaucoup entendu, nous aussi, parce qu'on travaille beaucoup avec des populations autochtones sur ces questions-là. Dans ce qu'on nous propose, on a plus à perdre qu'à gagner.
Ça dépend de ce qu'on propose. Nous, on a une nation sur le territoire qui s'appelle la nation Huron-Wendat. Et on travaille dans une grande collégialité avec eux. On a des projets, notamment de développement d'éco-quartiers de Première Nation, pour faire en sorte qu'ils puissent à la fois avoir leur population dans des lieux déterminés, mais qu'ils puissent aussi avoir une commercialisation de leur art, de leur talent, de leur génie. On travaille super bien ensemble. Je pense que c'est un modèle qui inspire. Il y a des succès, là. Il y a des succès. Et je veux revenir sur la question de la transition écologique, mais c'est la même chose pour la question de nos relations avec les Premières Nations. Je préfère proposer quelque chose de mobilisateur. Je préfère dire aux gens, malgré les défis des changements climatiques, malgré les grands enjeux que nous avons en matière de relations avec nos Premières Nations, il faut essayer au moins, au lieu de se rouler en boule dans un coin angoissé ou de se dire que la terre est perdue, il faut se dire que malgré la hauteur du mur qui est devant nous, malgré les immenses défis que nous avons à rester en relation, à apprendre à travailler ensemble, il faut y croire, il faut proposer un projet mobilisateur, il faut dire aux gens, c'est pas perdu. Il y a quelque chose dans le génie humain, dans la femme et dans l'homme qui va construire la suite des chose, malgré que ça nous semble presque insurmontable, quelque chose qui fait qu'on puisse y arriver. C'est la seule façon, en se mettant en mouvement, de faire en sorte qu'à la fois, on établisse des relations intéressantes, sincères, comme on le fait avec la nation Huron, malgré que parfois, on a des enjeux, malgré qu'on débat, comme on va le faire avec la question environnementale. Je refuse d'abdiquer, je refuse la fatalité. Je pense qu'il faut proposer à nos communautés, je pense qu'il faut proposer à nos citoyens une vision qui est mobilisatrice et qui fait en sorte qu'on ne connaît pas toutes les solutions. C'est vrai qu'on va dire aux gens, je ne connais pas toutes les solutions, mais mettons-nous en chemin, on va les trouver. Mm-hmm. C'est la seule façon d'y arriver.
Mais on vous sent très déterminé. Il y a le dire et le faire. Parce que embarquer tout le monde dans ce que vous défendez, etc., c'est très séduisant. Mais quand on voit les projets qui sont souvent conduits avec ces barrages, etc., et les retombées qui sont promises pour ces populations, souvent ces populations ne les ont pas. Donc dire, c'est une chose, vouloir embarquer tout le monde, c'est formidable.
C'est impossible d'embarquer tout le monde. Je suis d'accord avec vous. Là, je ne parle pas des Premières Nations. Là. Je parle dans n'importe quel projet. C'est impossible d'embarquer tout le monde. Le voyage m'a permis de réaliser ça aussi. À chaque fois que vous avez un projet qui change quelque chose, il y a quelqu'un qui peut-être y perd ou qui a peur d'y perdre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'oppose. Bordeaux a un tramway depuis plus de 2 décennies et il n'y a plus personne qui reviendra en arrière. Il y a des pistes cyclables, il y a une rue piétonne qui s'est construite à Bruxelles. Tout le monde a crié, ça serait la mort de cette rue-là, qui était une grande artère commerciale. Et c'est pas la mort, il y a plus de commerçants qu'avant. À Montréal, on a mis une piste cyclable à un endroit et il y a plus de commerçants qu'une rue similaire un peu plus à l'ouest pour laquelle il n'y avait pas de piste cyclable. Alors, c'est vrai que le changement fait peur. C'est vrai qu'il faut rassurer, c'est vrai qu'il faut entendre, c'est vrai qu'il faut écouter, mais il faut aussi le faire parce qu'on n'y arrivera pas sinon, si on fait juste discuter. Alors, il y a un moment, il faut arrêter de parler. On l'a fait, on se met en mouvement. Mais pendant qu'on se met en mouvement, ça n'empêche pas d'écouter, ça n'empêche pas de soutenir nos commerçants, ça n'empêche pas de soutenir les gens qui ont peur. Mais je pense que le changement, présentement, nous impose ça.
Mais là, vous parlez de populations qui sont déjà intégrées, des commerçants qui en aient plus ou qui en aient moins. Oui. Là, on parle de populations qui sont discriminées déjà de
et ça dépend des Premières Nations. C'est pour ça que je vous parle de ce que je connais le mieux, la Première Nation avec laquelle, sur le territoire avec lequel on travaille. Puis j'aimerais ça que le grand chef soit là pour vous le dire, parce que je pense qu'il dirait la même chose. On a cette entente, cette capacité d'apprendre, cette capacité de se remettre en question. Il y a des choses qui vont bien. Est-ce que ça va bien avec toutes les Premières Nations? Évidemment que non. Évidemment qu'il y a des relations plus tendues dans certains secteurs, des relations tendues avec Hydro-Québec ou dans certains secteurs de développement où vous avez raison. Et je ne suis pas en train de dire que ces nations-là ont tort. Je fais juste dire que de ce qui nous concerne, de ce qui nous gouverne, on est capable de créer quelque chose malgré nos différences. Et au lieu de se sentir lésé, comme disait Saint-Exupéry, on se sent enrichi.
Alors, ça parle un peu du réchauffement climatique quand même. Vancouver est candidate pour les JO de 2030. La Colombie-Britannique a dit qu'elle ne le financerait pas.
Ouais.
Vous avez eu une expression un peu ambiguë. On a eu l'impression que vous alliez voler au secours des JO de Vancouver. Québec est...
Je ne pense pas que les JO ont besoin du maire de Québec pour être secourus, mais...
Non, mais est-ce que vous pourriez arriver en renfort pour l'organisation?
Ce que j'ai dit, c'est... On est ouvert à prendre l'appel. Alors, il n'y a pas eu d'appel. le but étant pas de dire on va faire des Jeux olympiques. Le but était de dire, et ça a été réussi, on est ouvert à analyser les opportunités d'affaires. Et grâce à ça, on a eu d'autres appels pour dire, si vous êtes intéressé à ce type d'événement, moi, j'aurais quelque chose à vous proposer.
Et on peut organiser des grandes manifestations comme ça et lutter contre le réchauffement climatique parce que c'est des nouvelles installations, c'est la convergence de beaucoup d'avions au même endroit.
Ouais, la question se pose et on est obligé de faire mieux que ce que nos prédécesseurs ont fait. Alors, les prochains Jeux olympiques devront être de plus en plus verts, devront être de plus en plus prévus ainsi. Il faudra trouver des façons de voir est-ce qu'il faut, comment faire pour minimiser les vols, utiliser des moyens sobres en carbone de se déplacer, pour en tout cas ceux pour qui c'est possible. Mais je vous le dis, là, je ne suis pas en train de dire qu'on va avoir les Jeux olympiques à Québec. Je suis juste en train
non, mais vous n'êtes dire... pas opposé à cette idée. En
non,
tout
mais...
Cas. Vous y voyez une opportunité. Ben, vous en avez parlé avec Paris, là, avec Anne Hidalgo, puisque...
Oui, on en a parlé.
Ah, vous en avez parlé?
Oui, ben, j'ai pas parlé de la candidature de Québec, mais on a parlé du projet de Paris.
Ça vous a donné envie?
Bien,
Vous, le sportif, en plus.
Oui, mais c'est... Il y a dans ces rassemblements-là... Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de défaut, là. Entendez pas ça. Il y a dans ces rassemblements une capacité de créer des éléments qu'on n'arriverait pas si on n'avait pas le fait que tout converge vers un point focal. Alors, on est capable de créer du logement, faire un village des athlètes et de le transformer en logement par après. On est capable de dire on va dépolluer la Seine et on va avoir des nageurs qui vont faire une compétition dans la Seine et on va pouvoir s'y baigner. Alors, il y a dans ces momentum créés par des événements, puis il y a des défauts aux Jeux olympiques, là, mais il y a des momentum duquel une ville peut certainement en tirer profit. Après ça, c'est une question de est-ce que c'est assez intéressant pour le faire ou pas le faire? J'ai pas la réponse pour Québec. On ne s'engage pas dans un processus pour être des Jeux olympiques, mais on s'engage certainement dans cette idée de dire il y a quelque chose à construire, puis on va le faire avec les gens.
Vous êtes maire de Québec, Bruno Marchand. On s'est posé la question avec Jean-Philippe tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a fait entrer en politique, vous?
Parce que... J'ai perdu une gageure, non.
Non. Vous avez fait à Paris?
Oui, c'est ça que j'ai perdu.
Non, mais parce que, voilà, vous aviez un domaine où vous excelliez, qui était en trait de Québec. Hein, vous avez vraiment permis à cette structure de recueillir beaucoup de dons, de pouvoir vraiment s'attaquer à ces questions de pauvreté, d'exclusion sociale.
Mais vous savez, celle qui m'a succédé fait encore mieux, hein.
D'accord. Mais alors vous, pourquoi avoir quitté ce secteur où vous excelliez, où vous aviez quand même, par rapport à toutes les valeurs que vous avez défendues depuis le début de cette émission, vous aviez les moyens d'imprimer...
Mais parce qu'en politique, il y a encore plus de leviers. J'ai toujours une relation d'amour-haine avec la politique.
Amour-haine?
Oui. Amour parce qu'il y a la capacité-là de rassembler des gens, de viser des objectifs communs et de les... idéalement les atteindre. Alors, je vous donne un exemple. Parce que je suis maire, on a été capable de mettre la tarification sociale des transports à Québec. Les gens à faible revenu vont payer 33 % de moins leur déplacement en transport collectif. Et on vise à améliorer ça. Bien, c'est un geste qui n'est pas si énorme dans l'histoire du monde. On n'est pas les premiers à le faire. Mais cette volonté d'avoir une ville équitable, d'avoir une ville qui traite les inégalités et qui fait en sorte qu'il donne des chances, bien, ça recrée des possibilités pour des gens qui en avaient moins. Quand on a aboli les amendes dans les bibliothèques, ce qui semblait aux yeux de plein de gens contre-intuitif, parce que surtout les clientèles à faible revenu accumulaient des amendes à ne pas avoir remis des livres et n'y allaient plus parce qu'ils étaient à la somme maximale, donc ils ne pouvaient pas emprunter. Mm-hmm. Bien, on empêchait des clientèles vulnérables, des clientèles souvent démunies, d'avoir accès à une bibliothèque qui est le troisième lieu, qui est ce lieu normalement où on devrait rencontrer la littérature, où on devrait rencontrer la science, où on devrait rencontrer la beauté. Bien, d'enlever les amendes, c'était un geste minime.
Ça, c'est la politique qui vous permet, c'est-à-dire oui. de... Et la haine, c'est quoi?
La haine, c'est que j'utilise une expression, et là, vous allez voir en moi l'intérêt que j'ai pour les films de Tolkien. La politique, c'est l'anneau de Tolkien. Dans Le Seigneur des Anneaux, cet anneau-là, c'est pas juste la politique, ça peut être l'argent, mais c'est cet anneau de pouvoir qui peut faire de nous un Gollum. Vous vous souvenez, c'est cet animal qui a fini, ce hobbit, mais qui a fini par être absorbé par l'anneau parce qu'il était toujours à protéger son précieux.
Par les ténèbres.
Oui, c'est ça. Mm-hmm. Alors, la politique peut nous amener là. Alors, comment on fait pour rester à la fois quelqu'un de humble alors qu'on nous dit « Ah, vous êtes maire, c'est extraordinaire. » Comment on fait pour rester quelqu'un à l'écoute alors que parfois, il faut foncer, il faut arrêter d'écouter pour faire avancer les choses? Comment on fait pour garder l'humain proche et non pas se penser supérieur aux autres, rester sur le, comme on dit au Québec, sur le plancher des vaches? C'est un art pas facile. Alors
On dit ça aussi en France.
Oui, bien, tant mieux. Alors, j'ai essayé d'y aller au moment où je pensais que l'anneau, je serais le plus capable de l'éloigner de moi possible. Seule la fin le dira.
Dans une période très géopolitique, il y a la guerre en Ukraine, il y a une recomposition générale de la planète sur des bases d'affrontements, de constitution de blocs, etc. Vous, dans votre démarche politique, vous allez devoir rentrer dans ces questions-là à un moment donné. Ouais. Là, vous avez une vision dont on voit bien qu'elle est teintée d'une forme d'humanisme très fort.
Elle a, et de candeur.
Elle a les pieds sur terre et elle associe vraiment de...
Candeur, c'est vous qui dites, non mais d'humanisme.
Ouais. Non, mais de vraies considérations, de partir de la base pour élever vers le... vers le haut, mais à quel moment vous entrez plus dans ce qui caractérise cette période? C'est on a l'impression à vous entendre que le Canada est encore un petit peu isolé d'un certain point de vue. Alors je suis sûr que c'est pas votre sentiment.
Vous avez raison de dire que la guerre en Ukraine, bien qu'on la voit à la télévision, bien qu'on a énormément de peine et on accueille les Ukrainiens chez nous, on la vit pas comme vous. La question de l'énergie, on ne l'a pas vécu comme vous parce qu'on est alimenté par l'hydroélectricité, on a des coûts très faibles, donc on n'a pas vécu ces coûts que les gens vivent ici à se chauffer, à avoir une alimentation en énergie qui explose. On a vécu l'inflation, on a vécu des défis, mais je pense qu'on est...
Préservé d'une certaine façon.
Mais par la distance,
Vous habitez aussi un pays qui a une façade sur le Pacifique et qui regarde en direction de la Chine.
Oui.
Donc, les notions de géopolitique ne sont pas absentes.
Mais présentement, le regard de la Chine, bien qu'il est mondial, il est aussi en lien vers l'Ouest, avec l'Ukraine, avec les enjeux avec la Russie, avec la géopolitique européenne, asiatique. Alors, je ne suis pas en train de dire que la Chine ne regarde pas vers l'Est, mais il y a encore un océan qui nous sépare. Alors, on n'est pas protégé. On est partie prenante de ce monde. On ne peut pas s'individualiser et dire « ça ne nous regarde pas ». Et je ne pense pas que le Canada doit faire ça. Mais on a un regard, je pense, un peu plus distant.
Et alors, c'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cet entretien. Ça fait plus d'une heure que nous sommes ensemble. Et on aurait pu encore vous écouter longtemps. Merci beaucoup, Bruno Marchand, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Celle de Jean-Philippe Rémy, responsable du service international du journal Le Monde, partenaire de ce magazine. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à TV5 Monde. International vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne fin de week-end. Okay.